c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Excusez pour ce petit problème technique avec les ordinateurs. Je voudrais ce matin vous inviter à ouvrir votre Bible pour juste un verset dans Tite. Tite chapitre 1, verset 4. Tite chapitre 1, verset 4. À Tite, mon enfant légitime, en notre foi, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant de continuer, je voudrais qu'on prie encore. Père, combien j'ai besoin de toi. J'ai pu chercher par ta grâce et ne faisait qu'effleurer la profondeur de ce que nous allons nous entretenir. Je voudrais prier afin que c'est toi qui parles, parce que sinon tout ce temps que nous allons consacrer ne serve à rien. Et quand tu parles, je prie que notre cœur soit ouvert, que nous puissions être enseignables. Et c'est comme cela que nous serons bénis. Fais le Seigneur ce matin. Aide-moi à être clair dans l'exposé aussi. Et j'ai besoin de ta grâce et ton aide. Bénis ce moment et dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Imaginez que vous n'avez que ce verset. On n'a pas lu les versets avant. Et tout ce qui va suivre, vous n'avez que ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ? En regardant que ce verset, ce qui me frappe, c'est de voir quelqu'un dont, imaginons qu'on n'a pas lu les versions précédentes, dont je ne connais pas son nom, mais il parle et clarifie sa destinataire. Et ce qui me frappe dans la lettre, c'est un homme de grande relation, je dirais exceptionnel. Pourquoi ? Parce que il est très soucieux des relations qu'il entretient avec ici Tite. Et nous allons voir tout à l'heure, pas seulement avec Tite, mais dans toutes ses épîtres, cela ressort. Quelqu'un qui est soucieux des relations qu'il entretient avec ses destinataires. Et pour dire qu'un peu rare, et le souligner, parce que son but dans les relations n'est pas de tirer profit, c'est-à-dire, il n'est pas motivé sur ce que cette relation peut lui apporter. Ça me frappe. Mais il est soucieux dans cette relation de ce qu'il peut apporter à l'autre, au lieu de regarder son propre intérêt. Et dans cette relation, deux choses que je vois souligner à la base, ce sont les choses spirituelles. D'abord, il porte une affection et il rappelle ce qui le lien, je parle de relation, ce qui le lien à Tite, hein, c'est la foi. C'est le premier point dont nous allons nous entretenir. Mais dans cette relation, comme je vous ai dit, c'est pas lui, son intérêt qui compte, c'est ce qu'il peut apporter à l'autre. Et non seulement cette affection et ce rappel de l'importance de la foi, mais aussi il vise le bien-être de Tite. Comment on peut savoir? C'est par ce soit, le subjonctif soit précédé de que la grâce et la paix te soient données. Il veut que tu te sois enrichi des bénédictions spirituelles qui viennent d'en haut. Et ce matin, à l'exemple de l'apôtre Paul, j'aimerais m'entretenir aussi avec vous de ces deux choses. D'abord, la foi. Et une des bénédictions qui souhaite pour Tite, la grâce. Remarquez d'abord pour la foi, quand il s'adresse à Tite, il l'appelle, il le qualifie « mon enfant ». Et vous savez que ce n'est pas la seule personne à qui il donne cette qualification. Il l'a fait aussi pour Timothée. Il le qualifie de son enfant bien-aimé. Il le fait aussi pour Philémon, qu'il qualifie de son enfant engendré dans les chaînes. Ça veut dire quand il était en prison à Rome. Il le qualifie d'enfant, ça veut dire qu'il est leur père spirituel. Autrement dit, il a quelque part joué un rôle important dans leur conversion. Mais quand on regarde cette marque d'affection, mon enfant, légitime ou véritable, il souligne dans ce sens aussi que Tite est un véritable enfant de Dieu. Mais posons-nous la question, mais sur quelle base Paul peut-il affirmer que Tite est un véritable enfant de Dieu? Et ça peut nous faire examiner nous-mêmes, est-ce que je le suis aussi sur cette base? Et c'est un peu le motif que j'ai pour vous entretenir de ce sujet avec vous. Sur quelle base peut-il, Paul, affirmer que Tite est un enfant légitime, c'est-à-dire un véritable enfant de Dieu? Quand je regarde le texte, d'abord, non pas parce que son père spirituel s'appelle Paul, n'est-ce pas? Non pas parce que son père spirituel a un statut, je dirais, hors norme, si on peut le parler aujourd'hui, en un terme un peu normal, on pourrait dire, Paul avait un CV, beton, excusez-moi de l'expression, parce que par rapport à Dieu, il est qualifié comme serviteur dans le verset précédent. Par rapport à Jésus-Christ, il est son apôtre. Et par rapport à la parole, il est prédicateur. Tout cela, nous avons vu avant. Et maintenant, par rapport à Tite, il est son père spirituel. Donc, ce n'est ni, non à cause de la personne de Paul, ni à cause de son statut, mais alors, à cause de quoi il peut être sûr de le qualifier comme un enfant légitime? Regardez, toujours entre vos mains, ce verset, il y a un petit mot. J'ai failli passer à côté, mais quand on regarde le grec à l'original, il est très très important. À Tite, mon enfant légitime, en, E-N. Ce petit mot qui traduit un mot grec comme un connecteur logique, si vous voulez, de comparaison. Et ce petit connecteur logique, le grec kata, il est traduit ici par « en ». Et donc, si on se concentre bien et poursuivre la pensée de l'auteur, on ne peut pas passer à côté et de louper ces informations. Parce qu'il va jouer un rôle crucial dans la détermination de ce que, qu'est-ce que va dire Paul, pour connaître exactement ses pensées qui viennent de l'Esprit de Dieu. Ce petit particule « en » nous donne la base, ou je dirais l'étalon, par rapport auquel on peut qualifier quelqu'un d'un véritable enfant de Dieu ou non. Je répète, cette petite particule « en » kata en grec, dans le contexte du passage que nous lisons, va nous servir comme un étalon, une référence par rapport à quoi, si ce qui concerne Tite est en conformité, alors il est véritable enfant de Dieu. Donc, en conclusion, cet étalon, c'est quoi? Regardons encore notre verset. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi. En notre commune foi. Donc, cet étalon, c'est la foi. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sur quelle base Tite est un enfant légitime dans la foi? Ici, donc, en conclusion, à cause de ce connecteur très important, on peut dire qu'évaluer selon la foi que possèdent tous les croyants, parce que c'est commun à tous les croyants, évaluer selon la foi, Tite est un véritable enfant de Dieu. Je répète, évaluer selon cet étalon qu'est la foi que possèdent tous les croyants, alors Tite est un véritable enfant de Dieu. Et permettez-moi de rajouter, cette foi, je veux les qualifier de la foi qui sauve. Qui sauve. Mais qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce qui caractérise une foi véritable, celle qui sauve? J'aimerais que vous tourniez votre Bible dans 2 Pierre chapitre 1 et verset 1. Nous allons regarder maintenant quelles sont les caractéristiques d'après ce passage, je dirais le plus clair parmi d'autres passages, qui nous décrit ce qu'est la foi qui sauve. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Nous allons énumérer des points importants qui permettent de décrire, selon ce qui est écrit là, ce qu'est une véritable foi qui sauve. D'abord, je remarque que cette foi est à la base qui fait de nous, qui fait de vous un véritable enfant de Dieu. À ceux qui ont reçu, ceux qui ont reçu quoi ? En partage une foi. Donc c'est la base qui fait de vous un véritable enfant de Dieu et qui unit tous les croyants en partage, n'est-ce pas? Je vois que cette foi est de même essence que celle des apôtres. Vous voyez, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc cette foi est de même essence que la foi des apôtres, apôtre Paul, apôtre Pierre. Et ce qui est à remarquer, troisième point, cette foi, c'est un don qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas une foi qui vient de vous comme un optimisme, une foi positive. Non, c'est un don qui vient de l'extérieur parce qu'elle est reçue. Vous avez remarqué? Et ce qui caractérise encore cette foi qui sauve, quatrième point, c'est qu'elle est basée sur la justice qui s'applique de l'extérieur, celle qui vient de Dieu, et donc n'a rien à voir avec notre propre justice, notre propre mérite. Et ce passage nous dit encore que la source de cette foi se trouve en Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ. Et pour terminer, la valeur universelle de cette foi réside dans le prix payé, à savoir la vie du Sauveur Jésus-Christ, dont il fait mention dans ce verset. Donc vous voyez, ce qui fait de quelqu'un véritable enfant de Dieu, c'est cette foi que nous venons de décrire à travers ce qui est écrit dans 2 Pierre. Mais quelque chose de formidable, ceux qui sont unis dans cette foi, ils sont appelés les frères en la foi. Galates 6:10. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Oui, en tant que véritables enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi des frères en Christ, à cause de cette foi qu'on a en commun, qu'on partage. Colossiens 1, 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Et encore, est-ce quelque chose qui nous met à terre quand on imagine comment Jésus me qualifie? Christ n'a pas honte de les appeler frères. Ainsi pour dire que Christ est notre grand frère, si je peux dire ainsi. La foi en Christ nous accorde de tels privilèges. Quelque chose que je constate dans ce verset aussi, que sur la base de cette foi, la différence d'âge, parce que n'oublions pas que Paul est déjà d'un certain âge, la différence d'âge entre ce vieillard qu'était Paul et Tite qui est jeune, et aussi la différence de race, Paul qui est un juif et Tite un grec, ces motifs-là sont effacés, n'a plus raison d'être. C'est leur commune foi qui les unit entre eux et cette commune foi qui nous unit à nous tous les croyants. J'aimerais juste regarder avec vous quand il parle de « en notre commune foi ». J'étais un peu frappé en fouillant un tout petit peu et regardez ce que signifie ce mot « commune ». Vous allez être étonné. Parce que dans la Bible, il est utilisé par ailleurs et il porte la connotation de ce qui est impur. Je vous dis, par exemple, regardez, acte 10, 14, mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé. » Souillé, c'est le même mot qui est commune ici, ni d'impur. On fait allusion ici à Pierre qui avait faim et qui a vu une vision dans le ciel d'une nappe qui descend sur terre. Il a vu des animaux impurs. Et il disait, « Je n'ai jamais rien mangé de souillé, d'impur. » Mais ce n'est pas le sens que nous avons ici. Dans notre passage, le mot « commune » a le sens plutôt d'accessible, de disponible pour tous les humains. Même les petits enfants en état d'âge de réfléchir peuvent le faire. Donc la foi dont il est question, c'est à la portée de tout le monde. Et ce matin, je m'adresse à vous. Ce matin, voulez-vous avoir en partage cette foi? Et cette foi qui est identique sur cette base qu'a été sauvé l'apôtre Paul, Pierre, Tite, Timothée, Philémon et que sais-je d'autre? Voulez-vous ce matin avoir en partage cette foi? Et vous dites, oui! Je veux, mais comment? Comment faire? Romains 10, 17 dit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on entend. Ça suppose qu'on est à l'écoute. Et ce qu'on entend, non pas à l'origine des pensées humaines, de la philosophie, et de la sagesse humaine. Il vient de la parole de Christ. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Christ? Éphésiens 13 dit, « En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Christ, on ajoute foi. Ça veut dire tout simplement, je mets ma confiance totale, sans réserve, dans ce qu'il dit. Et dans ce passage, qu'est-ce qui nous est dit clairement pour que je devienne un véritable enfant de Dieu? Croire en lui. D'abord, il faut entendre. Deuxième chose, croire. Et vous avez remarqué bien, en lui, cette foi n'est pas vague. Cette foi est basée en une personne, en lui le Christ. Et troisième chose, ça vient comme ça qu'on s'est fait. Vous avez placé votre confiance en Christ. Vous êtes scellé. Vous êtes scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Pour nous, ça ne parle plus aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire, les scellés? Il y a toujours les sceaux qu'on utilise encore, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'est très important. Le sceau, quand on tamponne sur un objet, garantit que cet objet sera préservé jusqu'à destinataire. Dieu, quand il a mis son sceau par le Saint-Esprit, nous donne la sécurité de notre salut, qui nous préservera, qui nous gardera jusqu'à la glorification. Je vous invite, si ce n'est pas votre cas, à considérer de telles choses. Entendre, croire, pas vaguement, ou n'importe quoi, mais mettre votre confiance, placer votre confiance en lui, en Christ. Et à cet instant, Dieu vous scelle de son Saint-Esprit. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et c'est ça la complexité des choses, avec nos raisonnements, nos pensées tellement torturées. Aussi simple que cela. Et oui, à la portée de tout le monde. Oui, nous avons parlé de la foi qui nous est commune. Et parlons maintenant de la première bénédiction que Paul souhaite pour Tite parce qu'il veut son bien spirituel. Que la grâce, ça c'est ce que nous allons considérer aujourd'hui. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous parlerons de la paix, cette deuxième bénédiction. Que la grâce te soit donnée de la part de Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, je veux parler, oui, de la grâce, mais j'aimerais vous montrer dans toutes les salutations, oui, c'était coutume à l'époque, quand on veut écrire une lettre à quelqu'un, il y a des formules, je dirais, protocolaires, c'est comme ça. Et ce que nous lisons en est de même. Mais, comme je viens de dire avant, ce n'est pas que coutumière pour Paul. C'est profond pour lui. Parce que cela nous apprend ces véritables richesses qui fait de nous des enfants de Dieu. Et ces bénédictions que nous avons en Christ. Il le souhaite qu'on soit en enrichi. D'abord, remarque générale pour toutes les salutations de Paul dans le Nouveau Testament. Il est toujours précédé par « que te soit ou vous soit », le subjonctif. Oui, le subjonctif souligne le fait que le ou les destinataires, ici en l'occurrence Tite, hein, a besoin continuellement de la grâce et de la paix. C'est au présent continuellement besoin de la grâce et de la paix. Regardons ensemble, hein, et c'était frappant, et je voudrais vous partager, hein, les versets dans toutes les salutations introductives de Paul dans ses épîtres, hein, les nuances, les variations, hein, et surtout les points communs. D'abord, je peux le présenter en 5 catégories, si vous voulez prendre les notes, et je veux citer le verset pour ceux qui nous écoutent, hein, peut-être ce message. D'abord, on voit dans les salutations une première catégorie où Paul s'adresse à ses destinataires en disant que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, hein, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, 7, 1 Corinthiens 1, 3, 2 Corinthiens 1, 2, Galates 1, 3, Éphésiens 1, 2, Philippiens 1, 2, 2 Thessaloniciens 1, 2 et Philémon 3. Ça, c'est une première variété, si je peux qualifier ainsi, dans ces salutations. Un seul verset où cette salutation concerne et vient de la part de Dieu, notre Père. Et c'est uniquement en Colossiens 1, 2. Et une troisième catégorie où que la grâce et la paix vous sont données. De la part de qui? Il ne le souligne pas. Et c'est uniquement à 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Une quatrième catégorie de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. En 1 Timothée chapitre 1 verset 2 et 2 Timothée chapitre 1 verset 2. Et la dernière catégorie, Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Ici Jésus-Christ notre Seigneur, ici Jésus-Christ notre Sauveur. Et on le voit en Tite 1.4. Je laisse un temps si ça vous intéresse. Et j'étais fort surpris que quand Paul écrit dans tous ses épîtres sans exception, il commence par des salutations, ces cinq catégories, et il va terminer en mentionnant uniquement la grâce dans tous ces épîtres. Je veux vous le partager rapidement. J'ai les mis en trois catégories. Que la grâce de notre Seigneur. Okay. Il va terminer par cela, la grâce de notre Seigneur. Romains 16, 24, Galates 6, 18, 1 Thessaloniciens 5, 28, 2 Thessaloniciens 3, 18 et Philémon 25. Et soit il parle tout simplement la grâce du Seigneur, traduit ainsi. Et c'est dans 1 Corinthiens 16, 23, 2 Corinthiens 13, 13 et Philippiens 4, 23. Et la dernière catégorie, que la grâce soit avec vous. Éphésiens 6, 24, 1 Timothée 6, 21 et 2 Timothée 4, 22 et Tite 3, 15. Vous allez dire, mais là, tu t'es sué pour quoi? Pourquoi tout ça? Regardons rapidement que dans toutes ces salutations, il y a un élément qui est commun à tous. Il commence toujours les salutations sans exception par la grâce et suivi de la paix. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on se focalise à travers ses attributs le caractère de Dieu qui vise dans cela. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu de paix. Il veut la paix. Et il termine chaque épître par grâce, comme on vient de le montrer. Tout simplement, pourquoi commencer par la grâce, terminer par la grâce? Je dirais, c'est parce que Paul veut que nous soyons convaincus que la grâce est comme l'atmosphère dans lequel le croyant vit et respire. Comme il a besoin de l'oxygène pour respirer, pour vivre, il en est de même, il ne peut pas vivre sans la grâce. Êtes-vous conscient de cela? Et ces souhaits ne sont pas adressés seulement à Tite, à Timothée, à Philémon, mais au saint, à tous les corps, membres du corps de Christ, les sauvés, les personnes véritablement enfants de Dieu. Une seule exception dans 1 et 2 Timothée, où il parle d'une troisième bénédiction. Jusque-là, nous avons vu la grâce et la paix, mais il va parler dans 1 et 2 Timothée, c'est le seul, où il va ajouter la miséricorde. C'est aussi une manière de décrire le caractère de Dieu. Et vous savez, dans la Septante, c'est ça qui est fort intéressant. Dans la Septante, hein, c'est-à-dire la traduction en grec de, à partir de l'hébreu, l'Ancien Testament, le mot ici qui est miséricorde, c'est exactement l'hébreu ézed, c'est-à-dire la loyauté dans l'alliance que Dieu accomplit et contracté avec son peuple. Il est un Dieu miséricordieux et fiable. Et vous savez, c'est intéressant de souligner que, à l'époque, un vrai Israélite, qui je dirais pieux, Il sait que s'il attend quelque chose de la part de Dieu, il doit remplir les conditions de l'alliance. Mais malheureusement, il est conscient aussi qu'il ne pouvait pas les remplir. Qu'il ne pouvait pas les remplir. Tous. Et c'est pour cela que pour un vrai Israélite pieux, la miséricorde, c'est quelque chose, la miséricorde de Dieu est très important pour eux. Tout simplement parce que même s'il n'accomplit pas ce qu'il doit dans cette alliance contractée avec Dieu, il sait que Dieu ne supprime pas à cause de son insuffisance la miséricorde. Ça c'est fort. Il ne le supprime pas de suite, cette miséricorde, c'est le mot que nous avons ici, en 1 et 2 Timothée. Et pourquoi je peux dire ça? Parce que nous lisons dans Exode 34, versets 6 et 7, l'Éternel Dieu est riche en bonté. Voilà, miséricorde. Et en fidélité, qui conserve son amour. Voilà encore le mot miséricorde, jusqu'à 1000 générations. Et donc un vrai Israélite, sachant qu'il ne peut pas compter sur ses propres efforts pour remplir le devoir envers cette alliance contractée avec Dieu, attend la miséricorde, non pas comme un dû, Dieu le doit, mais il attend la miséricorde parce qu'il fait confiance en le caractère de Dieu qui est miséricordieux, qui ne le supprime pas parce qu'il n'a pas fait son devoir. Et vous dites, là, c'est très beau, mais nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Mes chers frères et sœurs, ce qui me frappe dans cela, c'est que le Dieu ne change pas. Celui qui est révélé dans l'Ancien Testament demeure le même dans ses attributs. C'est pour ça qu'il souhaite pour les croyants du Nouveau Testament aussi la miséricorde. Imaginez ce que nous méritons, la miséricorde. Dieu nous épargne de ce que nous devrions mériter. Nous méritons la mort, mais Dieu nous l'a épargné parce que nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Il est mort à notre place. Quelle miséricorde! Quelque chose qui est à souligner d'une manière générale dans ces salutations aussi, c'est que Paul lit, je dirais, d'une manière grammaticalement, toujours le Père et le Fils. Vous l'avez remarqué? Grammaticalement, il le lit les deux. Et ça veut dire quoi? Ça, pour les auteurs du Nouveau Testament, c'est une manière de démontrer que Jésus est Dieu. Ça, c'est la première manière pour montrer que Jésus est Dieu. Ils sont les deux mis côte à côte et liés par la grammaire dans, comme origine de ces bénédictions. Mais une deuxième manière, et ça on le voit dans notre passage aussi, comment les auteurs du Nouveau Testament justifient et démontrent que Jésus-Christ est Dieu. Quand il applique les attributs de Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament, il va l'appliquer dans ses écrits à Christ. Et vous le voyez ici, dans notre passage. Le titre Sauveur, le titre Seigneur, c'est le titre qui a été donné à Yahvé, l'Éternel, dans l'Ancien Testament. Et maintenant, il l'applique à Jésus-Christ. Donc, il est le Dieu, le même que celui qui s'est révélé dans l'Ancien Testament et celui qui est à l'origine aussi de ces bénédictions que nous avons en Christ, que nous devrions, et Paul souhaite que nous soyons enrichis. Donc, ainsi, Jésus-Christ est Dieu, et il est à l'origine de toutes ces bénédictions que sont la grâce, que sont la paix, que sont la miséricorde, comme cette atmosphère dans lequel on vit, et sans cela, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre comme Dieu le veut. Mais, posons-nous la question rapidement. Oui, je comprends cette grâce, cette faveur imméritée. Mais pourquoi ai-je besoin de cette grâce? Oui, parce que c'est l'atmosphère dans laquelle on doit vivre, comme on respire avec l'oxygène. Oui, ça c'est une des raisons. Oui. Mais pour Tite, pourquoi il en a besoin? Je veux que vous regardiez votre Bible, juste le verset 5 qui suit après. Tite en a besoin grandement de cette grâce parce que la situation, la tâche, si vous voulez, ou la mission qui l'attend n'est pas facile. N'est pas facile. La situation en Crète est difficile parce que il est dit au verset 5, il doit mettre en ordre ce qui reste à régler. Et c'est très intéressant ici, mettre de l'ordre. Ça veut dire tout simplement, c'est un terme médical. Et l'idée ici, c'est de redresser des membres déformés. Ou bien, mettre en place, remettre en place des os fracturés. Ça, c'est l'idée ici. Mettre de l'ordre. Et, quand on lit cet épître, on remarque que les croyants avaient été nombreux dans chaque ville, dans cette île de Crète. Un écrivain de l'époque affirmait à l'époque qu'il y avait 100 villes dans la Crète ancienne. 100 villes. C'est Homer qui le dit. Et vous savez, de nos jours, si vous faites visiter, il y a à peu près seulement sur la carte 15 à 20 ville qui reste. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de groupes de croyants sur cette île. Mais souci, c'est qu'il ne fonctionnait pas trop bien, comme une jambe boiteuse. Mettre de l'ordre, mettre des jambes fracturées à sa place. Oh, que c'est douloureux. Mais Tite, la tâche n'est pas facile, il doit régler ce qui reste à régler. Et c'était frappant de regarder ce que ça signifie, ce qui reste. C'est le mot combler des lacunes. Ah bon? Non seulement il y a un problème comme des os fracturés, mais aussi il y a des lacunes. Et quelles sont ces lacunes? On le voit qu'il faut mettre de l'ordre dans l'organisation de ces assemblées. Parce qu'il est dit qu'il faut qu'il institue des anciens. C'est-à-dire, Paul lui dit qu'il faut que ce statut soit reconnu officiellement pour que l'ordre puisse y être. Mais non seulement qu'il a affaire avec l'organisation où il y avait des lacunes, mais aussi des lacunes dans les comportements des gens dans les assemblées. Oula, j'ai parlé tout au début des relations avec les autres. Imaginez-vous ce jeune grec arrivé dans le milieu, dans ces églises, il doit s'adresser aux personnes âgées, hommes, verset 2, les femmes, verset 3. Il doit parler aux jeunes femmes, verset 4 du chapitre 1. Après, il doit s'adresser aux jeunes hommes, verset 6. Pour que leur vie soit conforme à la sainte doctrine. Il y a la foi qui est enseignée, ce qu'est la doctrine, mais il y a aussi la foi qui est vécue, on peut dire la piété. Et les deux sont connectés. Donc quelque chose qui ne va pas dans cette église, c'est que la doctrine, la foi enseignée, n'est pas en accord avec la foi vécue. C'est pour cela qu'on vous lisez cette petite épître, vous allez avoir beaucoup de reproches. Et notre pasteur, l'avait bien souligné à l'introduction quand il nous a parlé de cette épître. Donc vous voyez la tâche de ce jeune Tite. Pas facile, pas facile. Et non seulement il faut redresser le comportement au sein des assemblées pour qu'il soit conforme à la doctrine, la foi qui est enseignée, ce qui est cru, mais aussi ça doit rejaillir dans leur comportement, dans la société. Et vous pouvez lire dans Tite 2, 9, 10, les serviteurs, ils parlent aux serviteurs à être soumis à leur maître. Il leur parle au verset 10 de ne plus dérober, mais faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Chers frères et sœurs, il y a toujours ceux qui disent, mais oui, la doctrine, oh, c'est trop théorique ça, on n'en veut pas, on veut quelque chose qui se met en pratique. N'est-ce pas? Chers frères et sœurs, ne vous trompez pas, ne vous détrompez pas. Une foi vécue, et je dirais saine, parce que l'Épître en parle beaucoup de ce vocabulaire, le mot saint, une foi vécue qui est saine est toujours une conséquence d'une foi enseignée, une doctrine qui est saine, insalubre, un saint salubre, n'est-ce pas? Si vous voulez marcher d'une manière selon la piété, vous devriez connaître la doctrine associée qui vous exhorte à faire cela. C'est pour cela qu'il parle toujours de cette doctrine saine. Je fais allusion au chapitre 1, verset 13, il parle de foi saine. Chapitre 2, verset 1, il parle de saine doctrine. Chapitre 2, verset 7, il parle d'un enseignement pur. Et qui doit produire une conduite sainte? Regardez, 2:7, je vous donne le verset juste. Modèle de bonnes œuvres. Chapitre 2, verset 14, peuple zélé pour les bonnes œuvres. Chapitre 3, verset 8, ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, c'est, il doit mettre de l'ordre là-dessus aussi. Oui, Tite en a besoin pour la tâche qu'il attend. Mais ce matin, pour terminer, je voudrais juste poser quelques questions. Mais pourquoi moi, dans ces salutations de l'apôtre Paul, au saint, pourquoi moi aussi j'ai besoin de la grâce de Dieu? Je n'ai pas une tâche, comme Tite, à faire au sein de l'Église pour redresser ce qui ne va pas, pour mettre de l'ordre. Je n'ai pas ça. Oui, j'ai besoin de cette grâce. Non pas ici, la grâce du salut. Parce que Tite, il est qualifié de son enfant légitime, donc il est déjà un véritable enfant de Dieu. Paul veut aller plus loin pour nous montrer le besoin pressant pour nous d'avoir cette grâce opérante dans ces diverses multiples facettes qui comblent nos besoins. Et c'est ce que je veux vous montrer rapidement. Pourquoi ai-je besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui? Oui, première motivation, j'ai besoin de la grâce de Dieu qui m'accorde, qui me donne la puissance pour servir Dieu. Éphésiens 3:7, regardez votre Bible, Éphésiens 3:7. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour avoir cette puissance pour pouvoir servir Dieu. Paul disait, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Quel est le contexte ici? Paul a reçu une révélation du mystère qui était caché depuis tout temps concernant l'Église, qui est le corps de Christ. Et il est mandaté par la prédication, l'enseignement, de faire connaître ça au peuple de Dieu. Et si vous lisez chez vous, il n'en fait aucune fierté, comme si c'était lui qui était à l'origine de ces choses. Jamais. Au contraire, il dit tout tenir de la grâce de Dieu pour pouvoir accomplir son ministère par la puissance du Saint-Esprit que nous venons de voir. Je cite encore Colossiens 1:29, cette puissance, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, pas ma force, qui agit puissamment en moi. Il parle ici de sa mission d'annoncer l'évangile, faire connaître Christ. Et c'est intéressant, le verbe travailler, c'est peiner à la tâche. Travailler sans relâche. Et le verbe combattre, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, combattre, c'est le verbe agoniser. Agoniser, ça veut tout dire, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de ses forces. Paul l'a tenu bon dans le ministère que Dieu lui a confié à cause de la grâce qui accorde cette puissance qui est surnaturelle et qui vient de Christ pour l'aider dans son ministère. Attention, ça ce qui est très important, la grâce de Dieu est là, je croise mes bras. Mais non, l'apôtre Paul dit, il faut qu'il travaille peiné, il faut qu'il arrive jusqu'à agoniser. Mais quelle est la différence? Ce n'est pas grâce à ses forces, mais il en est arrivé là à cause de puissance de Dieu qui agit dans sa vie. Oui, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de nous sacrifier, mais c'est en vain si ce n'est pas la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans cela. Oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour m'accorder et fournir cette puissance dont j'ai besoin. Vous savez, chers frères et sœurs, cette puissance nous est disponible. Et vous allez encore être émerveillés que cette puissance, Dieu nous a démontré son effet en ressuscitant Christ des morts. Cette puissance qui était disponible pour ressusciter Christ des morts, et vous savez, ça n'était pas seulement ça. Je vous cite Éphésiens 1, versets 19 et 20. Mais non seulement cette puissance a permis de ressusciter Christ des morts, mais cette puissance a permis à ce que Christ soit assis dans les lieux célestes à droite de son Père. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous lisez Éphésiens 6, le QG de Satan est en dessous dans les lieux célestes. Et pour que Christ soit arrivé jusque-là, la puissance de Dieu pour lutter et s'opposer à ces forces sataniques lui permet d'être assis. Ça veut dire qu'il a fini ce dont il a fait pour nous sauver. Nous avons tout. Et c'est à notre portée, que nous soyons avec foi dépendants de cette grâce pour ce que nous avons à faire, moindre comme grande tâche. Deuxième raison pourquoi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu me fait prendre conscience de l'œuvre de Dieu dans ma vie, dans nos vies. Regardez 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'imagine toujours, je me mets à la place de l'apôtre Paul. Ici, le contexte, c'est que dans ce chapitre 15, Paul va développer l'enseignement sur l'importance de la résurrection corporelle. Parce qu'il y avait des gens qui doutaient de cela. Et même met en doute la résurrection du Seigneur. Et il avait cité qu'il y avait, le Seigneur Jésus avait apparu à plus de 500 frères après sa résurrection. Et il cite, il s'est apparu à Pierre, à Jacques, à tous les apôtres. Et vous savez, en bout de liste, il dit à moi, Paul, petit. En bout de liste. Paul se souvenait qu'il avait persécuté l'Église. Ce que n'avaient pas fait les autres apôtres. Nous le savons. Mais c'est là qui nous dépasse. Dieu ne l'a pas disqualifié à cause de ce passé. Mais par sa grâce a fait de lui l'apôtre des non-juifs. Et son envoyé dans les nations. Auprès des nations. Paul ne pouvait jamais effacer son passé de persécuteur. Mais je suis ce que je suis. Il acceptait ce que Dieu a fait de lui maintenant. Et ce que Dieu a fait de lui vient de la grâce de Dieu. Et vous savez, la grâce de Dieu nous tient à notre juste place. Il nous tient à notre juste place. Il nous empêche soit de nous dévaloriser, mais aussi nous empêche de nous enorgueillir. Et l'apôtre Paul le dit. Je ne mérite rien. Et ce que je peux faire, et ce que je suis devenu en Christ, vient d'extérieur à moi, c'est cette grâce de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué dans les passages, si vous l'avez sous vos yeux, dans 1 Corinthiens 15, 10, quand il parle, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi. J'étais frappé pour cette opposition, le contraste. Paul aime beaucoup les contrastes. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. Vous pouvez mettre à côté, non pas moi. En contraste, mais c'est la grâce de Dieu. Et il dit la même chose dans Galates 2:20. Si je vis en la foi, je la vis, donc je vis en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Encore le contraste. Plus moi, mais Christ vit en moi. Oui, Paul est conscient que ses efforts, ses capacités, son intelligence, son éloquence ne servaient à rien. À moins que il s'appuie sur cette grâce. Que nous puissions dire ainsi aussi, Seigneur, tu m'as donné des capacités, je te remercie. Tu m'as donné ce don, je te remercie. Mais à moins que tu m'aides, je ne peux rien. Et nous devrions être dépendants de lui. Il y a besoin de cette grâce pour le servir, pour vivre pour lui. Et content parce qu'il vit en moi. Pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. Plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Troisième raison, pourquoi j'ai besoin de la grâce de Dieu? Oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour une meilleure compréhension de la place de la souffrance dans nos vies. Oh, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour cela. Philippiens 1, 29, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est clair. La foi en Jésus, qui fait de vous un véritable enfant de Dieu, nous venons de le dire, et la souffrance en son nom, qu'est-ce qu'il nous a dit ici, Paul? Toutes les deux, des grâces de Dieu. La foi et la souffrance en son nom, toutes les deux relèvent de la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu nous équipe pour souffrir pour Christ. Vous savez, ne croyez jamais, et beaucoup, nous le savons, dans des milieux de ce monde, dans des coins dans ce monde, où on entend parler de l'évangile de prospérité. On ne doit même pas mettre le mot évangile. C'est contraire même à son sens. Mais qui vous promet que si vous venez à Christ, votre vie va devenir rose. Vous aurez tout ce que vous voulez, tout va bien. Vous serez épargné de toute souffrance. Mensonge. Mensonge. Il vous avait été fait la grâce par rapport à Christ, dans cette sphère-là. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc la persécution n'est pas une anomalie de la vie chrétienne, mais une réalité dans laquelle il faut s'attendre. Jésus a prévenu, les apôtres ont témoigné de la véracité de la persécution. Vous savez, contrairement aux apparences, donc c'est une faveur et un privilège que d'être opprimé à cause de sa foi en Jésus-Christ. Mais encore faut-il, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour réaliser et accepter et voir cela, qu'il a sa raison d'être. La souffrance a sa raison d'être. Si Dieu l'envoie dans ma vie, elle a sa place. Elle a sa place. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu pour comprendre. Et plus encore, vous savez, non seulement les chrétiens vont souffrir par la persécution, mais ils souffrent aussi, comme les communs de mortels, de différents maux à cause de l'introduction du péché dans ce monde. On peut souffrir à cause de la maladie au niveau de notre santé, par le chômage, par les injustices au travail, par des enfants qui sont rebelles, et quoi sais-je? Oh, j'ai besoin de la grâce de Dieu face à ces souffrances, pour pouvoir regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles je peux être exposé. Vous voyez la place de la grâce de Dieu dont nous avons besoin? On pourrait rester jusqu'à la fin de l'après-midi, la liste est longue pour énumérer la place et l'importance de la grâce de Dieu dans la vie des croyants. Mais je vais terminer sans être exhaustif, mais j'ai besoin aussi de la grâce de Dieu pour pardonner les autres. Le thème de notre culte d'adoration aujourd'hui, c'est le pardon. Et ce pardon de Dieu qui doit se traduire par mon pardon envers les autres. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Chers frères et sœurs, soyons réalistes. Quand on réalise les dettes colossales que Dieu m'a remises à cause de mes péchés, est-il raisonnable? Et comment ça se fait-il encore que ça nous arrive d'être dans la rancune, dans l'amertume, et en vouloir aux frères et sœurs? Ah, oh, parce que il est passé à côté de moi sans me dire bonjour, il m'a ignoré. Ou parce que il m'a adressé une parole qui m'a vexé, blessante. Je veux lui en vouloir. Quand vous pensez à cette dot colossale que Dieu vous a remise, où ça ne peut que produire en vous le désir de vouloir pardonner aussi vos frères et sœurs. Et ce que nous devrions faire. Chers frères et sœurs, la grâce pour le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ devait se manifester par les pardons accordés aux autres. Et vous avez besoin de la grâce de Dieu. Moi, j'ai besoin. Chacun de nous. J'ai besoin de la grâce de Dieu aussi pour que Dieu change ma vie, afin que je ressemble à Christ, ma sanctification. Tite 2:12, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous savez, à cause de nos péchés, on a des luttes contre la chair en nous, n'est-ce pas? Cette chair en nous, je dirais, qui a hérité des tares qu'a laissé le vieil homme que je suis en Adam. Cette chair en nous, ces tares laissées en nous, et il lutte en nous contre Dieu, ce que Dieu veut. Et c'est pour cela qu'on, parfois ça ressort encore, ces plaisirs dans les péchés où nous aimons tellement bien quand nous étions sans Christ. Dans le mensonge, la malhonnêteté, les grossièretés, et que sais-je. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à l'école de la grâce. La grâce nous enseigne, il nous instruit, et nous instruit à avoir un dégoût de ces choses dans lesquelles nous avons trouvé plaisir dans le passé. Et la grâce nous donne une meilleure prise de conscience sur la gravité de ce qu'est le péché. Pourquoi? Parce que la grâce ne veut pas que nous demeurons dans ces états. Il veut que nous changions. Et il nous enseigne comment changer pour vivre selon ce que Dieu veut et qui lui plaise, ce qui fait ses délices. Et dans ce verset, sûrement plus tard, on aura l'occasion de rentrer dans la profondeur, mais il y a deux choses. Il faut dire non aux sollicitations de ceux auxquels j'ai été soumis et sans force lui obéir, ces mauvaises sollicitations. Il parle de l'impiété, c'est le manque de respect envers Dieu. Et vous pouvez dire, mais manque de respect envers Dieu, non. Je respecte toutes les religions, non, ça ne me concerne pas. Attention, nous devrions dire non à l'impiété, ça veut dire tout simplement parce que avant notre salut, nous vivons pas pour Dieu. Soyons honnêtes. Dieu ne comptait pas dans notre vie. Et nous vivons selon notre propre loi. Ça, c'est l'impiété. Même si vous respectez la religion, mais c'est ce que vous avez fait. Et renoncer à ça, déjà l'accepter, l'admettre que oui, je suis concerné. Et dire non. Et non seulement ça, mais aussi dire non aux désirs mondains. Parce qu'ils s'opposent à Dieu. Tout simplement parce qu'ils sont nuisibles à ma vie avec le Seigneur. Ça, c'est toujours le principe de Dieu qui est général. Si on veut quelque chose qui change, on doit vider de ce qui est mauvais, mais on ne laisse jamais l'espace vide. Il faut remplir d'autres choses. Et c'est ce qu'enseigne ce passage aussi. Maintenant, nous pouvons dire non à l'impiété, non au désir mondain, mais nous devons être remplis de la justice. Nous devons être remplis de la piété. Pour que maintenant, c'est comme un programme où nous vivons naturellement, parce que ces programmes sont mis en place dans nos esprits et notre vie s'aligne et met en route. Et c'est ce que Dieu désire. Dieu, oh, change ma vie, mais j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai envie de te ressembler. Et c'est ce que tu demandes, parce qu'un jour, devant le Seigneur, je ne peux pas me présenter tel que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Change-moi. Mais j'ai besoin de la grâce de Dieu. Oh, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour vivre dans l'humilité. Peut-être vous dites, non, ça ne me concerne pas. Ah si. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour l'humilité qui me permet de regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même. Philippiens 2:3. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour que je considère aussi les intérêts des autres au lieu de considérer mes propres intérêts. Et oui, ces deux passages nous enseignent, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que non seulement nous sommes imbus de notre propre personne, mais nous sommes foncièrement égoïstes dans nos gènes. Depuis tout petit. J'aimerais, parlant de l'humilité, vous partager ce que disait un serviteur de Dieu. Et je vous demande à réfléchir à cela. C'est André Muret qui disait, l'humilité c'est le repos parfait du cœur, c'est ne jamais être irrité, peiné ou déçu, c'est ne s'attendre à rien, ne s'étonner de rien qu'on puisse me faire. C'est être en repos lorsque personne ne me loue, qu'on me blâme et méprise. Je trouve quand même il y a de la profondeur et une certaine vérité dans ce qui est dit là. En tout cas, je n'ai jamais fait le lien entre l'humilité et le repos de l'âme. Vous voyez le lien ? Dieu, j'ai besoin de l'humilité pour te servir, mais j'ai besoin de l'humilité parce qu'il y a un lien qui est là entre le repos de l'âme et l'humilité, ce qui fait en moi. Et je voudrais terminer par ceci, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour la libéralité. Dans notre culte d'adoration, les offrandes comptent aussi pour glorifier Dieu. Et Dieu attend cela, que ça vienne avec un cœur joyeux, le donner à lui. 2 Corinthiens 9, 13-14, en considérant de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Verset 14, ils, ça veut dire les chrétiens de Jérusalem, prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Mais on pose la question, mais quelle grâce Dieu a fait pour eux, pour ces chrétiens de Corinthe? Ah, la réponse au verset 13, tout simplement, de la libéralité de vos dons. Les dons matériels, de l'argent. Oh, je sais qu'on n'aime pas trop parler de ça. Ça nous dérange. Moi aussi, ça me dérange. Mais permettez-moi un petit témoignage. Combien je vois dans cette église des jeunes étudiants, même étudiants, et vous le savez bien par définition, les étudiants ne sont pas trop riches. Mais de ces étudiants, j'ai été béni parce que j'ai vu, parce que j'entends de leurs témoignages, que le peu qu'ils ont, ils ont donné leur dîme à Dieu. Attention, là, dîme! Je ne vous prêche pas, ne vous impose pas de faire la dîme. Je parle de leur libéralité. Oui, on peut en discuter, on en parlera surtout dans la vie de l'Église, hein, dans les enseignements bibliques. Est-ce que nous sommes soumis à la dîme? Je dirais la dîme, c'est un repère. Mais les croyants du Nouveau Testament ne sont jamais, ils ne peuvent jamais, ils ne doivent jamais s'arrêter. J'ai fait ma dîme. C'est terminé. Nous pouvons faire au-delà, et ça, c'est la grâce. C'est juste un repère pour se situer, mais on n'est pas imposé à la dîme. Une illustration pour faire comprendre cela. La loi française, si vous avez des enfants, vous oblige à aimer vos enfants. C'est écrit dans la loi. Et c'est stipulé comment vous devrez aimer vos enfants. Vous devrez le nourrir, vous devrez le vêtir, vous devrez lui donner un enseignement, vous devrez lui donner une éducation. Et j'en passe. Et vous savez, c'est exactement la mentalité que nous devrions avoir en tant que parents. Ce n'est pas parce que la loi dit il faut que je vêtis mon enfant, que je lui donne à manger, que je... Oui, par rapport à ce que j'ai fait. Très bien, pauvre enfant. Même si la loi ne le disait pas, le cœur d'un vrai parent, il fait au-delà de ce que la loi demande. Et parfois, il était ignorant de ce que demande la loi. Mais il a fait au-delà. C'est exactement le principe qui nous stimule. Et je dis, très jeune, commencez à être sérieux avec le Seigneur par rapport à l'argent, quand vous êtes croyant. Vous savez, j'ai mis du temps à air ma honte, des années, je le savais. Mais j'avais des motifs, ah oui, il faut que j'épargne pour ma retraite, je suis rentré trop tard pour mon travail, et qu'est-ce qui me restera à la retraite? Je n'ai pas la maison, comment je vais le payer? Et sagement, je mets de côté. Mais vous savez ce qui m'est arrivé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est que tout ce que... Je n'ai pas dit... Non, il ne faut pas dire ça. Une grande partie de ce que j'ai épargné... disparu. Comme ça. Pourquoi? Et tout simplement... Et ça m'a frappé. Cette fin d'année 2017... Mais trois voitures, simultanément, tombées en panne. Et je peux vous garantir, ce n'est pas des pannes, juste des bougies à changer. Presque la voiture a changé. Et j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu sais très bien, Seigneur, que la voiture en a besoin pour aller au travail. Ah, tu sais, Seigneur, que les voitures en a besoin pour venir pour les réunions dans l'assemblée. Et trois fois au moins par semaine. Et la voiture, j'en ai besoin pour transporter des frères et sœurs, pour rentrer chez eux. Et pourquoi ça? J'ai demandé à Dieu, sans un cœur amer, mais un cœur vouloir entendre et comprendre ce qu'il dit. J'ai compris, c'est moi, hein, de ce que j'ai compris à travers la parole de Dieu, que j'ai besoin d'être au sérieux avec les offrandes. Et j'ai dit, il n'est jamais trop tard. 2018 commence et je dis, Seigneur, maintenant, toi tu sais, mon cœur, tu sais que j'ai du mal à cela, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir donner plus que la dîme. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, je veux tenir. Et je peux vous garantir, j'étais effrayé en disant ça parce que j'ai dit, mais Seigneur, les mensualités qui restent encore pour les voitures, comment? Mais par obéissance, j'ai dit, Seigneur, je vais obéir dans ce domaine envers toi. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai la joie. Il y a plus de joie à donner, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein? Je n'attends rien en retour du Seigneur, mais je veux lui offrir parce qu'il m'a tout donné. C'est juste ça. Et chers frères et sœurs, jeunes que vous êtes, même en tant qu'étudiants, commencez à le faire. Ce n'est pas parce que vous aurez... une belle situation et plus tard que vous donnerez. C'est trop tard. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est égoïste. Il ne pense qu'à lui. Et ces choses-là, ils ne vont pas penser. Et faites-le dès votre jeune âge. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour la libéralité. Oui, le temps est assez long. Et j'espère que vous avez être convaincu, non pas à cause de moi, mais parce que la parole de Dieu vous a convaincu que vous avez besoin autant d'oxygène pour respirer, autant de la grâce pour vivre pour le Seigneur, dans tous les aspects de votre vie. Oui, cherchons à l'exemple de Paul à bâtir nos relations sur la base de la foi. Ce qui doit nous encourager au ministère de l'Évangile pour gagner des âmes à Christ, c'est une des missions que l'Église a, et sa raison d'être. Donc à l'exemple de Paul, cherchons à bâtir nos relations sur la base de la foi, pour que nous puissions gagner des âmes à Christ, pour qu'ils, à leur tour, vont gagner d'autres. Mais je dirais, pour terminer aussi, cherchons dans nos relations à rechercher avant tout le bien spirituel de l'autre, mais non pas ce qui peut me rapporter dans cette relation. C'est ce que je vous ai dit pour l'apôtre Paul. Il était soucieux du bien-être de ses frères. Oh, que ça puisse nous convaincre. Et pour terminer, cherchons toujours à croître dans la grâce. De Pierre 3, 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » On doit chercher à croître dans la grâce. Je dirais, s'il y a un domaine où nous ne devrions jamais être contents, parce que la Bible parle du contentement sur certaines choses, mais s'il y a un domaine où nous ne devrions jamais être contents, c'est notre croissance dans la grâce. Oui, chers frères et sœurs, dans ce domaine de la grâce, vous ne pouvez jamais dire, « Ouf, je suis arrivé !» Oh, c'était dur, hein ? Oh, c'est super, je suis content, je suis arrivé. J'ai plus besoin de grandir. Erreur, enlevez de vous cette pensée. Croissez dans la grâce, croissez dans la connaissance. C'est le domaine jusqu'à la fin de votre vie, vous avez besoin.